Il se trouve que Pierre, lorsqu'il planifie nos interventions, m'avait proposé d'intervenir d'abord le jour de la fête des mères. Donc, j'ai honoré les mamans à partir d'un texte de Proverbe 31, et c'était le témoignage du roi Lemuel de sa maman. Et puis, une autre fois, c'était la fête des pères. Alors, je me suis dit, mais comment honorer notre Père Céleste ? Et nous avons donc médité là-dessus. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé votre calendrier, aujourd'hui, le calendrier fête Christ roi. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit, laisse-toi porter, laisse-toi guider. Alors, je me suis laissé guider par le calendrier et on va méditer ensemble Christ roi. C'est une incertitude ou une certitude ? Eh oui, quelle est la résonance pour nous quand nous entendons Christ roi ? Qu'est-ce que ça peut signifier ? Souvenez-vous de l'épitaphe, donc sur la croix de Jésus, « Celui-ci est le roi des Juifs » en grec, en latin et en hébreu. Ce que contestaient d'ailleurs les chefs religieux. Et devant le gouverneur romain, Pilate, ils accusent Jésus en disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Alors, Jésus, roi ou pas ? Et si oui, de quel royaume ? Généralité. D'abord, qu'est-ce qu'un roi aujourd'hui ? Un bon roi, c'est certainement mieux qu'un mauvais président. Je ne vise personne. Sa Majesté Bounibol Adouliad est mort le 13 octobre 2016, à l'âge de 88 ans, après un règne de 70 ans. Vous le connaissez tous, bien sûr. Toute la Thaïlande est en grand deuil et pleure son souverain, garant de l'unité du pays et père de la nation. Un deuil d'un an est décrété dans tout le pays. Et plus près de nous, la reine Elisabeth II est décédée le 8 septembre dernier, à l'âge de 96 ans et après 70 ans de règne également. Les funérailles nationales ont eu lieu à l'abbaye de Westminster. 2000 invités sont présents, dont 500 chefs d'État et dignitaires étrangers. Tout son peuple lui a rendu hommage. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai été vraiment impressionné par ces files d'attente de plusieurs heures, voire plusieurs jours, de son peuple. Et avant de parler de la royauté de Jésus, quelques rappels historiques sur la royauté dans notre pays. 65 rois se sont succédés, de Clovis à Louis-Philippe, jusqu'en 1848. Quelles sont les principales caractéristiques de la royauté ? D'abord, la royauté est héréditaire et le roi règne jusqu'à sa mort. Le roi est sacré. Le sacre est une cérémonie religieuse qui donne un caractère sacré. L'Église reconnaît au souverain une autorité de droit divin. Le roi prête serment et reçoit l'onction d'huile des mains de l'archevêque, puis on remet au roi les attributs de la royauté. La tunique à fleur de lys symbole de la pureté associée à la Vierge protectrice des rois, la couronne, coiffure symbolique de la royauté, le sceptre, long bâton de commandement tenu de la main droite, qui rappelle le bâton de berger de David, roi de l'Ancien Testament. La main de justice, bâton du bois surmonté d'une main d'ivoire avec trois doigts ouverts, renvoyant à la Trinité. L'épée joyeuse, également appelée épée de Charlemagne, pour rappeler que le roi est le défenseur de l'Église. Les éperons d'or, pour rappeler que le roi est un chevalier et doit se comporter comme tel. Nous qui ne connaissons que la République, nous avons un peu de mal à imaginer la royauté. Ces éléments nous permettent de mieux réaliser ce que représente la souveraineté du roi. Et ce n'est pas cette photo qui va nous aider. Beaucoup de chants évoquent la royauté de Jésus. Que ces quelques rappels nous aident un peu plus à réaliser sa grandeur lorsque nous nous adressons à lui et que nous les chantons. Aussi grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, Jésus est plus grand pour moi. Qu'est-ce qu'un royaume aujourd'hui ? Un royaume géré, administré par un roi. C'est un régime dans lequel la fonction de chef d'État est héréditaire. C'est un monarque, un roi, une reine, un empereur, un prince, un grand-duc, un tsar qui gouverne. Un royaume s'oppose à une république où l'on trouve un président comme chef d'État avec un gouvernement. Et il y a plusieurs systèmes de monarchie. Il y a les monarchies de droit divin ou électives, absolues ou constitutionnelles. Le royaume se caractérise par un territoire avec des frontières géographiques qui ont évolué au gré des conquêtes. Et ça continue. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Ukraine. Il y a plusieurs types de monarchies selon les pays occidentaux, arabo-musulmans ou autres. Le monarque règne sur un peuple. Voilà donc les grandes lignes que j'ai recueillies sur Wikipédia. Mais revenons à notre calendrier qui fête aujourd'hui Christ roi. Aujourd'hui, 20 novembre, 20, on fête Christ roi. Donc, j'envoie sur le moteur de recherche et on me dit, que cherchez-vous ? Fête du Christ roi ? Collège Christ roi ? Prière au Christ roi ? École Christ roi ? Eh bien, alors donc Wikipédia toujours m'aide un peu, et il me dit que la fête du Christ roi est une fête chrétienne instituée par le pape Pie XI en 1925, par l'encyclique Quas Primas, afin de mettre en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux lois du Christ. Et le journal La Croix nous dit que la fête du Christ roi clôt le cycle de l'année liturgique. Toute l'année, les chrétiens ont célébré les grands moments de la vie de Jésus. Lors du dernier dimanche de l'année, ils sont invités à se tourner vers le Christ roi de l'univers et juge de l'humanité. Le texte qui est lu ce dimanche est le texte du jugement dernier. J'étais nu et tu m'as donné à manger, malade et tu es venu me voir, etc. Le royaume de Christ est donc avant tout un royaume d'amour. L'attente du royaume dans les Écritures. En parcourant l'histoire de l'Église, de la première décennie, en passant par les guerres mondiales, celle du Golfe, aujourd'hui, on spécule toujours sur le retour du Christ, le Messie, et l'établissement de son règne à partir notamment des textes prophétiques. Quand j'étais gamin, on parlait souvent du retour du Christ. Et quand j'étais gamin, j'observais les étoiles et je regardais si le Christ n'allait pas revenir. Et plus tard, j'entendais des amis spéculer sur son retour possible, le rétablissement du règne de Jésus, notamment après la guerre des Six Jours en 1967. Et Jésus n'est toujours pas revenu. Le Messie de l'hébreu « Meshia », littéralement « oint », traduit en grec la langue du Nouveau Testament par « Christos », qui donne « Christ » en français. Donc il serait donc plus logique de dire que Jésus le Christ plutôt que Jésus-Christ. L'Ancien Testament annonçait la venue de loin de Dieu. Il apporterait la délivrance et exercerait une autorité universelle. Donc l'annonce du Messie. Ah, je me disais, ça va bien jusque maintenant, mais on a toujours des petits problèmes avec cette télécommande. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Daniel 7, versets 13 et 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des Jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Apocalypse 12, verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. » En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ésaïe 9, versets 5 et 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. On n'est pas étonné, d'après ces textes, de l'attente populaire d'un roi messie terrestre et politique qui vaincrait les ennemis d'Israël et qui rétablira toute chose. Beaucoup de Juifs étudiaient attentivement les textes des prophéties et la venue d'un Messie conquérant qui les libérait du joug des Romains. Et quand Jean-Baptiste annonçait que le royaume des cieux était proche, Matthieu 3, verset 2, il devait susciter beaucoup d'espoir. Mais à un moment donné, Jean-Baptiste lui-même, du fond de sa prison, s'est interrogé. « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Les Juifs, d'ailleurs, l'attendent toujours. Le royaume des cieux selon Jésus. Qu'a répondu Jésus à Jean ? Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Dans son livre, Ce Jésus que je ne connaissais pas, Philippe Yancey s'interroge. Pourquoi Jésus s'obstine-t-il à alimenter l'espoir de ses disciples en disant le mot « royaume » ? Royaume 53 fois rien que dans l'évangile de Matthieu. Il insistait pour s'associer à un terme que tout semblait mal interpréter. Que voulait donc dire Jésus par l'expression « royaume de Dieu » ? Il dit que Jésus ne donna jamais une définition claire du royaume. Il en transmit plutôt sa vision indirectement à travers une série d'histoires en choisissant des scènes de la vie quotidienne. Ce sont les paraboles. Il disait donc que le royaume des cieux est semblable ou ressemble à. Notamment, par exemple, la parabole du semeur et les différents terrains dans lesquels on semait, la parabole de la mauvaise herbe, la parabole de la graine de moutarde et du levain, celle du trésor caché dans un champ, au marchand qui cherche de belles perles, à un filet qui ramène des poissons de toutes sortes. Cela étonnait même les disciples. Après avoir entendu la parole du semeur, les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dirent « Mais pourquoi tu leur parles en parabole ?» Que leur répond-il ? Verset 11 de Matthieu 13, Jésus leur répondit « Parce que il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles entendent et que leur cœur ne comprenne. Qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Dans sa réponse, Jésus leur dit « À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Que veut-il dire ? Jésus explique de la sorte que celui qui ne reçoit pas l'évangile de la grâce, avec une bonne volonté, devient incapable de comprendre et d'en recevoir davantage. Par contre, celui qui docilement est prêt à se laisser transformer par la parole de Dieu, ce que faisaient les disciples, non seulement ils reçoivent la grâce de la conversion, mais deviennent aptes à recevoir davantage de grâce encore. Jésus nous surprend aussi avec cette citation d'Ésaïe, « De peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent. » Que leur cœur ne comprenne et qu'ils se convertissent, et que moi, je les guérisse. En fait, en réalité, le Seigneur recourt ici à l'ironie pour se plaindre justement de ce que ses auditeurs, librement, sont en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe, alors que lui n'a cesse de les sauver. Ainsi, donc, Jésus présentait le royaume des cieux, ou royaume de Dieu, par des paraboles dont le contenu n'a rien à voir avec ce que les Juifs attendaient, en majorité en tout cas. Un jour, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Luc 17, 20. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Puis il dit aux disciples, « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Le royaume de Dieu ne possède ni frontières géographiques, ni capitale, ni édifice parlementaire, ni aucun des apparats visibles de sa royauté. Ses fidèles vivent parmi leurs ennemis, sans qu'aucune frontière ni aucune muraille ne les sépare d'eux. Le royaume de Dieu vit et croît à l'intérieur même de l'être humain. C'est ce que dit Philippiens. Le royaume de Dieu s'établit par étapes, entre le déjà et le pas encore. Je cite Christopher Morgan, professeur de théologie et doyen de l'université de Riverside en Californie. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur son peuple au sein du monde qu'il a créé. Ce royaume est établi par le Messie dans le cadre de la Nouvelle Alliance qui est actuellement en vigueur dans ce monde, même si elle ne sera pleinement réalisée qu'au moment de la seconde venue du Christ. Le royaume de Dieu est un élément central du récit biblique, de la rédemption qui relate la chute d'Adam et d'Ève, l'appel de la nation d'Israël et la venue du Messie promis. Lorsque Jésus est venu en tant que Messie, il a établi le royaume de Dieu dans le cadre de la Nouvelle Alliance, par sa mort et sa résurrection. Désormais, il règne au ciel. Un jour, il reviendra pour mener à la perfection les bénédictions du royaume de Dieu et établir un nouvel Éden au cœur des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dans l'attente de ce moment, nous vivons dans un royaume soumis à une tension eschatologique existant entre le déjà et le pas encore. Nous servons notre roi en attendant son retour. Alors Jésus est-il roi ? Luc 1, 31, verset 32. L'ange dit à Marie, « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son trône n'aura pas de fin. » Alors, comment Jésus percevait-il son rôle de Messie ? Et il y a plusieurs situations. La première, la plus simple, la plus logique, celle qu'on rencontre quand il rencontre lui-même la femme samaritaine, et la femme samaritaine qui lui dit « Je sais que le Messie doit venir, et le Messie qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Et Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Une autre situation, celle de Bartimée. Vous savez, cet aveugle. Il est là, il est sur le côté, il mendie, pardon. Il mendie et puis il entend un bruit de foule. C'est Jésus de Nazareth qui arrive. Alors, Bartimée, oui, mais c'est Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi. On le fait taire. Fils de David, aie pitié de moi. Tais-toi. Et Jésus l'appelle, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Que je retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Et pourquoi sa foi l'a sauvé? Parce qu'il a reconnu en Jésus le Messie, fils de David. Et Jésus ne dit rien. Et ce Bartimée le suit, tout simplement. Et presque de suite après, Jésus se retrouve donc à Jérusalem. Et là, il va accepter d'accomplir la prophétie. Monté sur un ânon, il se laisse acclamer en entrant triomphalement dans Jérusalem, accomplissant ainsi la prophétie « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et donc dans Matthieu, dans Marc 11, 8, on nous dit que beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qui coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Jésus entra à Jérusalem, se rendit au temple, et après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze. Donc là, pas de réaction. Il se laisse acclamer. Mais parfois, les réponses sont plus surprenantes. À Caïphe, qui lui demande s'il est le Messie, il lui répond, « Tu le dis. » Ce qui peut être interprété comme « C'est toi qui le dis, c'est pas moi. » À Pierre, quand il confesse « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » dans Matthieu 16, verset 16. Jésus lui dit « Tu es heureux parce que c'est mon Père céleste qui t'a révélé cette pensée. » Mais au verset 20, il ordonne à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Messie. Même si la conception populaire du Messie comporte des éléments qui s'accordent avec sa mission, comme la perspective d'une future domination sur ce monde, Jésus refuse de revendiquer ce titre sous cette forme. Il sait combien les idées communes à ce sujet touchent aux politiques, et rien n'est plus éloigné de lui qu'une telle façon de comprendre sa mission. Ainsi, il ne renonce pas à son rôle de Messie sauveur. Il repousse seulement ce genre de gouvernement politique. Donc cité d'une fois, pour une fois réfléchi. C'est aussi pour ça qu'il obligea les disciples à passer de l'autre rive du lac pendant qu'il renverrait les foules après donc la multiplication des pains et des poissons, quand il a nourri une foule avec 5 000 hommes. Jean, Jean 18, 36, 37. À Pilate, qui l'interrogeait, Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » vous savez, cette réplique de Pilate, « Qu'est-ce que la vérité ?» Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Jésus règne dans les cieux et il règnera sur la terre. Après sa mort et sa résurrection, Jésus, après avoir parlé à ses disciples, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Conclusion. Jésus est-il le Messie ? Oui, il l'est. Il est roi. Tous les textes l'attestent. Quel est son royaume ? Il n'est pas politique. C'est un règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Ce n'est pas une société qui fonctionnerait avec des lois humaines, mais il est caractérisé par une libération d'une oppression plus dégradante encore, à savoir celle du péché. Matthieu 1, verset 21, « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Jésus est le Messie dès le début. Notre foi est ancrée dans la loi juive. Elle est l'aboutissement des espérances offertes au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, conformément à l'image employée par l'apôtre Paul lorsqu'il déclare que nous sommes greffés sur le trône d'Israël. Cela souligne aussi à quel point le plan du salut de Dieu est inscrit dans l'histoire et que la conception du temps de Dieu est différente de la nôtre. Son plan est en marche. Nous attendons le retour de Jésus, le Christ. Alors, le royaume de Dieu apparaîtra dans toute sa plénitude. Un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et le Messie établira son règne à perpétuité. La mort est vaincue. Satan est anéanti. Il reviendra pour régner sur un royaume qui ne connaîtra ni maladie, ni deuil, où le mal aura disparu. Le roi auquel nous nous adressons, en toute liberté, nous n'avons pas besoin de demander une audience. Nous avons accès au trône du Christ directement. Le roi auquel nous adressons en toute liberté est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La seule question qui vaille aujourd'hui, pour chacun, Jésus, est-il mon roi ? Jésus est-il mon roi ? Si oui, laissons-le régner sur nos cœurs. Nous, ses serviteurs, nous avons la tâche de manifester les caractéristiques de son royaume ici-bas. Ne sommes-nous pas ses ambassadeurs ? Nous sommes-nous pas le sel de la terre et la lumière du monde dans l'attente de son retour ? Père éternel, que ton règne vienne. Viens, Seigneur Jésus. Amen.